diverses manières d'être intelligent. C'est ça que je voudrais que nous essayions de comprendre ensemble. Nous avions la dernière fois essayé de saisir ce qu'est la logique. Je ne dis pas que la logique, c'est une manière d'être intelligent. C'est une manière de bien raisonner. Et la raison, c'est pas tout à fait la même chose que l'intelligence. Mais je crois qu'il y a une petite distinction qui est très importante. Toujours à bien faire entre le domaine de l'intelligence et puis la raison qui nous fait comprendre la manière dont nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents en raisonnant, en abstrayant. S'il n'y avait pas d'abstraction, il n'y aurait pas de logique. C'est parce que notre intelligence n'arrive pas à être intuitive. Parce qu'elle est trop imparfaite. Parce qu'elle est liée aux sensations. Je suis intelligent en touchant. Je suis intelligent en regardant. En voyant. Je suis intelligent en entendant. L'intelligence va tout de suite. Ces liens différents avec les cinq sens. Elle est une, elle est tout de suite variée. Et parce que l'intelligence abstrait passe du domaine de la représentation au domaine de la signification, c'est très important de bien comprendre ce passage. Le passage de l'image. L'image où on se représente. La signification, c'est au-delà de la représentation. Nos mots ont une signification. Et quelquefois, je peux représenter, et quelquefois, je ne peux pas représenter animal. C'est trop abstrait pour être représenté. Vous pouvez représenter tel animal. Mais l'animal, d'une façon générique, c'est impossible. Là, on voit tout de suite la différence. Animal a une signification. Mais animal ne peut pas être représenté. Universel, ça a une signification. Vous ne pouvez pas représenter l'universel. Essayez. Alors, nous avons donc le domaine d'une intelligence réflexive qui réfléchit sur sa manière particulière de se développer. Elle se développe en abstrayant. Elle se développe en produisant l'universel. L'universel est le fruit d'une abstraction. Nous allons maintenant essayer de comprendre ce type très particulier de l'intelligence. C'est l'intelligence poétique. C'est l'intelligence artistique. C'est une intelligence qui essaie d'une certaine manière de dépasser le mode abstrait. Bien qu'aujourd'hui on parle de peinture abstraite, c'est très joli tu vois, comme expression, parce que c'est quasi contradictoire. Mais les gens ne saisissent plus la contradiction. L'abstraction, c'est le domaine de la logique. Alors en réalité, on devrait dire peinture, pas abstraite. Vas-y, rentre au vieux terme, c'est intéressant. C'est toujours très intéressant de saisir des modes. C'est une mode. Pour certains, c'était une nécessité vitale. Pour d'autres, c'est une mode. Je me souviens à une exposition d'un jeune artiste peintre à Fribourg. Je le connaissais bien. Cette exposition, c'était entièrement une peinture abstraite.
Vous avez un problème.
professeur, qui a une forme d'intelligence tout à fait différente de la vôtre, dira que j'ai un imbécile dans ma classe. Alors ne vous inquiétez pas. Attendez de rencontrer le professeur qui a la même forme d'intelligence que vous, pour que vous puissiez être génial. Alors, c'était très joli ça. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'on est tous intelligents. Et sous des formes différentes. C'est ce qu'on dit en moitié philosophique, c'est que l'intelligence, elle est analogique. Il y a différentes manières de regarder le réel. Il y a différentes manières d'atteindre le réel. Et ceci, c'est normal, puisque notre connaissance est une connaissance incarnée, liée aux cinq sens. C'est une chose fondamentale. Notre intelligence, c'est toujours notre intelligence. Mais elle a des pistes différentes, elle a des orientations différentes. Elle est liée à la vision. Il y a des personnes qui sont intelligentes dans leur œil. Ça se voit tout de suite. Il y a des gens qui sont intelligents par l'ouïe. C'est pas la même forme d'intelligence. C'est très curieux. Au-delà des sensations, il y a l'imagination. Et puis il y a ce qu'on appelle la cogitative. Alors il y a des formes différentes d'alliances. Et puis il y a l'intelligence qui s'allie à l'amour, la connaissance affective. Je crois que c'est très important de saisir ces alliances différentes de l'intelligence avec la volonté, l'amour. Imagination, avec la cogitative. Il y a des gens qui sont très intelligents au point de vue pratique, un mécano. C'est remarquable. Je me souviens de ce petit mécanicien, c'était en Italie, il y a des mécanos étonnants en Italie. Ils sont très extraordinaires. Alors on a eu un tir en panne. Alors il s'est mis à faire rouler le moteur pendant quelques minutes. Cherchait à comprendre. Il a ouvert le capot. Il a regardé. Il a refait marcher. Oui, il cherchait. Puis tout d'un coup, il dit, ah, c'est ça. Et c'était un merveilleux médecin. Il sentait tout de suite le pouls du moteur. Et il arrivait à déterminer. À notre un temps énorme, on voit très bien le cafouilleur qui ne saisit rien du tout. Dites-lui, ah, il cherche. Ça, c'est la cogitative. La cogitative saisit le convenience. Puis il y a l'intelligence liée au sensible. Alors, la connaissance poétique, qu'est-ce que c'est que la connaissance poétique? Cherchons à comprendre ce que c'est que la connaissance poétique. Je prends ici connaissance poétique au sens, justement, des diverses connaissances artistiques. Mais en prenant poétique dans le sens le plus radical, je peux juger de la connaissance poétique quand je suis en face d'une œuvre poétique, comme je juge de la connaissance du peintre. Quand je suis en face d'une œuvre picturale, comme je juge de la connaissance du sculpteur, quand je suis en face d'une statue, c'est par l'œuvre que je remonte à la source. C'est très intelligent, un poème. Mais c'est une intelligence tout autre que celle du mathématicien. De la logique. Passez au crible de la logique un poème. Vous verrez, c'est pas fameux. Tandis que, lorsqu'il s'agit des mathématiques, vous pouvez passer au crible de la logique, ça tient la route. Et la philosophie doit tenir la route, même quand on fait passer au crible de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites qu'elle est symbolique? Ricoeur essaie de distinguer le mythe du symbole. Le mythe est symbolique. Mais tout symbole n'est pas mythique. Prenez un texte que vous connaissez bien en le lisant.
Je prends encore un exemple, c'est très intéressant d'essayer dans notre langage de temps en temps. C'est un mythe. Ne cherchez pas de la logique.
tout simplement une femme. C'est pas si commode que ça de distinguer la femme, le mythe. Tout ça est une connaissance symbolique. Alors qu'est-ce que c'est que la connaissance symbolique? Je crois que le propre de la connaissance symbolique, c'est d'être une connaissance toujours sans abstraction. Je vous ai dit tout à l'heure, je crois que dans la connaissance symbolique, on lutte contre l'abstraction. On veut dépasser l'abstraction. On veut revenir au réel. Mais pas au réel tel qu'il est. Au réel tel qu'on le pense en nous. Dans notre intelligence, dans notre imagination, dans nos rêves. Je crois que toute connaissance symbolique implique une représentation et une signification. Analysez bien un mythe, vous verrez toujours que dans tout, analysez bien le symbole, vous verrez que dans toute connaissance symbolique, il y a une représentation. La connaissance symbolique est toujours singulière. Elle est toujours sensible. C'est pour ça que je dis peinture abstraite. Attention, parce que elle représente quelque chose, elle implique une représentation. Même la peinture abstraite représente quelque chose, de l'ordre de la représentation, pas une représentation matérielle, pas une copie, mais une expression. Ça exprime quelque chose. C'est prendre de la connaissance symbolique, c'est d'exprimer quelque chose, d'exprimer. Parce que justement, ça a une certaine signification. Ça a une certaine signification délicate à préciser. Il y a une signification et puis une certaine représentation. D'où je crois le symbole exprime. Au sens tout à fait rigoureux, il exprime, il évoque. Il est au-delà d'une signification logique, précise, systématique. C'est juste l'inverse du système, la connaissance symbolique. Et toute connaissance politique est symbolique. C'est impossible, autrement, il n'y a plus de poème dans une connaissance systématique, dans une connaissance logique. La signification est très rigoureuse, tandis que dans la connaissance symbolique, la signification implique une certaine analogie. C'est une signification analogique et métaphorique. C'est une analogie, c'est-à-dire qu'on demeure dans quelque chose de sensible. Et dans ce quelque chose de sensible, il y a un rapport qui signifie quelque chose, qui évoque quelque chose. C'est très complexe, la connaissance symbolique. Et je crois qu'on peut essayer de comprendre ces différents éléments de la connaissance symbolique. Puisque signification, je comprends très bien que cette signification peut avoir des caractères très différents. La connaissance symbolique dans le mythe va impliquer un récit. Un récit pour enseigner. Les mythes enseignent. Ça implique un enseignement des origines. L'homme se demande d'où la vie vient. D'où l'homme vient. Et c'est vrai, dans toute tradition religieuse, il y a ça. On essaie. Et puis, où est-ce qu'on va? On ne sait pas. Le mythe remplace la connaissance scientifique. Mais ça donne quelque chose, ça évoque quelque chose. Alors, le début, la fin. Et non seulement le début et la fin, mais aussi les difficultés, les luttes. Vous voyez, le mythe de Prométhée, c'est un mythe, moi je crois, le mythe de Prométhée, qui montre comment l'art a commencé lorsque Prométhée a volé le feu qui appartenait aux dieux. Et l'art apparaît tout de suite à partir de ce mode, c'est un mythe, pour enseigner suite est une chose très importante au point de vue culture humaine. Et au niveau de la culture humaine, je crois que c'est toujours autour des mythes que se fixe la culture. Le mythe exprime un état de culture plus ou moins avancé. Il y a des mythes de la culture primitive, sans religion. Il y a des mythes de la culture technique. La culture technique a ses mythes, le mythe du progrès. Oui, Jules Verne, c'est le mythe du progrès. Et on voit que ce que Jules Verne a dit, ça se réalise aujourd'hui. Et à partir du progrès d'aujourd'hui, il y a de nouveaux mythes. Dans l'an 2000, qu'est-ce qui arrivera? Alors on crée le mythe de l'an 2000, en essayant de comprendre ce progrès. Qui va toujours plus grand, et ainsi de suite, oui. On a besoin de ça. L'homme a besoin de dépasser les connaissances logiques, strictes, précises. Alors, une fois que j'ai essayé de saisir l'importance de la connaissance symbolique, de la connaissance mythique, je crois qu'entre deux, on doit mettre la fable. La fable, c'est ordinairement une connaissance symbolique en vue de l'éducation. On éduque par les fables. Les fables de La Fontaine, les fables d'Ésope, les fables de tout. C'est quelque chose qui est dans l'ordre moralisant. On éduque. On montre comment, de fait, il y a quelque chose qui doit se faire à travers cela. Je me pose maintenant la question. D'où vient cette connaissance symbolique? Ça, c'est une très grande question, une question très importante au plan philosophique. Je crois que c'est très intéressant d'essayer de comprendre d'où vient la connaissance symbolique. On peut se poser aussi la question d'où vient la connaissance mythique, d'où vient la connaissance de la fable. D'où ça vient? On est tous un peu poètes à certaines heures. Puis on a tous fréquenté de grands poètes. Toujours intéressant d'être auprès d'un grand poète, essayer de saisir ceux qui ont fréquenté Claudel. On ne peut pas nier, mais chez Claudel, il y avait quand même quelque chose. Et quand on demandait à Claudel un peu d'où ça venait, ce qu'il faisait. Alors il disait, j'ouvre le robinet une heure par jour. Après, je le ferme. Et le lendemain, je l'ouvre une heure par jour. Et puis je le ferme sans relire ce que j'ai écrit la veille. Il m'a dit ça, moi. Quand je lui posais la question, je disais ça m'intéresserait beaucoup, puisque c'est des questions qui m'intéressent. Alors il y avait une part, vous voyez, il répondait en mythe. Il ne m'a pas répondu directement. J'ouvre le robinet. Une heure par jour. Et puis au bout d'un certain temps, je le ferme. Parce que l'autre s'est dit. C'est bien évident, c'est ça que ça voulait dire. Il n'y a plus de pression. Quand il n'y a plus de pression, vous avez les gouttes d'eau qui dégringolent, c'est plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le jet d'eau. Et c'est ça qu'il voulait dire. Je veux le robinet, c'était un jet d'eau. C'était pas le robinet, eau chaude, eau froide. C'était le jet d'eau. Je veux le robinet, alors il y a un jet d'eau. Et toute la journée, il vivait pour ce moment. Un jet d'eau. Et puis au bout d'une heure, plus de pression, je le fais. C'est très curieux de savoir d'où vient la connaissance symbolique. Il faut se poser la question. Au plan philosophique, on n'a pas le droit de ne pas se la poser. Alors, première réponse, c'est intéressant du reste de regarder toutes les réponses. Toute la diversité des réponses. Il y a les deux extrêmes. Quand c'est une chose difficile, presque toujours on a deux extrêmes. Premier extrême, toute connaissance symbolique, toute connaissance poétique, elle vient des muses. Ça se répète de temps en temps, encore maintenant. Elle vient des muses. Hésiode, le premier philosophe grec. Hésiode commence son poème en suppliant les muses de l'aider. Alors, on dira à ce moment-là que la connaissance poétique, elle vient d'en haut. Les muses, les fils du soleil, qui sont tout proches du canard, les fils du soleil, vous comprenez bien. Mais ça veut dire tout simplement que ça nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe dans la connaissance poétique, dans l'origine de la connaissance symbolique et poétique. Alors on dit ça vient d'en haut. Ça vient des muses. C'est Dieu qui nous inspire. Et nous, on est un canal. Certains diront ça. Certains diront connaissance poétique, toujours prophétique. Elle vient d'en haut. Elle nous dépasse. Le poète est un instrument. Ce qu'il dira, ça le dépasse. C'est les autres qui y comprendront. Et lui, il ne sait pas. Et c'est vrai, de temps en temps, quand vous voulez agacer un peintre, vous lui demandez pourquoi il y a cette harmonie. Pourquoi avez-vous fait telle couleur? Il vous dira, je n'en sais rien. Il a raison. Je n'en sais rien. Pourquoi avez-vous fait ça? Connaissance symbolique, elle nous échappe. Alors quand ça nous échappe, on dit c'est transcendant. Ça c'est une très bonne réponse. Quand j'étais jeune, j'avais une tante qui était en Chine, à Shanghai. Et chaque fois qu'on était pris par rêver, on me demandait qu'est-ce que je dois. Ah, ma tante qui est en Chine. Et ça veut dire les muses. C'est les muses, ça nous échappe, c'est pas d'où ça vient, on veut pas le dire, et en même temps on veut pas le dire. Et puis alors, l'autre extrême, il n'y a pas d'inspiration. L'inspiration ça n'existe pas, il n'y a plus de métier. Les gens rationnels ont tendance à dire ça, c'est le métier. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il n'y a plus de métier. Il y a le métier. Il y a des gens qui ont du métier et qui n'ont pas d'inspiration. On a tous connu de grands virtuoses, surtout en musique, qui n'ont pas un pouce d'interprétation, pas un pouce d'inspiration. C'est parfait. Vous voyez, la virtuosité est dans l'ordre poétique, ce que la logique est dans l'ordre scientifique. C'est un peu comme ça. Les virtuoses, c'est extraordinaire. Alors évidemment, quand on n'a jamais eu d'inspiration, on a tendance de dire que ça n'existe pas. Vous savez bien, c'est comme celui qui n'a pas d'esprit, il dit que ça n'existe pas, parce que l'esprit ne se connaît que de l'intérieur, et l'inspiration ne se connaît que de l'intérieur. Or, si on n'a jamais eu d'inspiration dans sa vie, les jours d'examen, il y a des gens qui n'ont aucune inspiration devant une feuille blanche. On vous donne un sujet, c'est mortel. Et surtout qu'on a une angoisse qui vous saisit. Et alors on n'a aucune inspiration. Alors à ce moment-là, il faut se mettre à écrire bêtement pendant une heure. Et puis l'inspiration vient. Il faut chauffer le moteur. Et là, quand vous chauffez le moteur, petit à petit, ça vient. Mais c'est vrai que ça existe des gens qui disent qu'il n'y a pas d'inspiration. Je n'ai pas les noms ici, ça vous intéresse. J'ai fait toute enquête parce que ça m'intéressait beaucoup, ce sujet de l'inspiration. Je crois qu'il faut dire que la connaissance symbolique provient de l'inspiration. Pas des muses. Pas des muses, non, non. C'est nous. À recueillir un concours particulier pour ceux qui croient en Dieu, du Père Céleste, très bien, mais ça n'explique pas. Il y a des gens très dévots, très pieux, qui n'ont aucune inspiration. L'art de Saint-Sulpice, c'est très très dévot. Aucune inspiration. Aucune. Et c'est vrai, vous avez de temps en temps des petites images de saintes religieuses, n'est-ce pas? Qui sont des petites images pieuses, mais aucune inspiration. C'est vraiment, vraiment, c'est pas la peine de dessiner quand on n'a aucune inspiration. On dessine pieusement, mais il ne faut pas dessiner pieusement, il faut dessiner artistiquement. Ça existe, on voit bien ça, c'est évident que c'est autre chose, la connaissance poétique et l'attitude religieuse. C'est pas la même chose du tout. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que l'inspiration. Et essayons de comprendre comment l'inspiration est source de la connaissance symbolique. Ce que je crois, l'inspiration est source de la connaissance symbolique. C'est très important de comprendre ça. Vous voyez, pour mieux aborder le sujet, il y a une question que je crois très importante qu'on avait vue ensemble, du moins pour ceux qui suivent ces cours déjà depuis un certain temps. Je me pose de temps en temps la question, quel est le point de départ de la philosophie? Il y a des philosophies qui partent de l'inspiration. Parménide dit que la philosophie part d'une inspiration, d'une révélation. La révélation de la déesse. Le poème de Parménide est très inspiré. Il dit que cette inspiration, c'est le contact avec la déesse. Il donne la main à la déesse. C'est agréable de donner la main à la déesse. Et puis la déesse, à ce moment-là, il lui dit, il lui dit, ce qu'est l'être. Platon, c'est une philosophie d'inspiration, on ne peut pas nier.